Proche de vous, mieux vous me contrôlerez. Je vais vous signaler que dans tous vos téléphones, vous avez un système d'intelligence personnelle qui vous permet de vous battre avec votre clavier qui vous corrige. Je voudrais remercier l'aîné prof Joly, son excellence monsieur le ministre et le président du CESAC pour nous avoir invités. Je vais vous dire que votre iPhone 16 a également un système d'intelligence artificielle qui, en cas d'accident, peut appeler les secours automatiquement sans que vous le fassiez. Pourquoi ? Parce que dans ce téléphone, il y a un anti-casse et il y a le téléphone, quand il circule, vous circulez avec, c'est un mouchard, il se positionne par rapport à toutes les antennes. Imaginez que vous roulez à 200 km/h et que tout de suite, au bout de 2 secondes, on est à zéro et que le choc du téléphone est tellement fort, l'intelligence artificielle comprend que cet arrêt brusque et ce choc qui est pesé sur l'anti-casse est un accident. Et vous êtes donc inconscient. Et le téléphone avait géolocalisé la dernière station de police. Ce n'est pas de la fiction. Vous avez cette option dans le iPhone 16 et 17. Il appelle le poste de police le plus proche en décrivant l'accident. Et il appelle également l'ambulance la plus proche. Et c'est la géolocalisation. Lorsque vous arrosez, beaucoup de gens aiment Real Madrid, Barcelone, mais vous avez un traitement spécial de la pelouse où ces équipes se déplacent généralement avec des intendants qui arrosent la pelouse d'une certaine façon. Mais ça coûte cher de les déplacer. Et on a pris cette intelligence humaine, comme le disait le prof Joly, on a entraîné une IA qui fait que l'arrosoir envoie la quantité et les jets d'eau nécessaires en fonction de la météo et du type des crampons que les joueurs peuvent porter. Voilà où va l'intelligence artificielle. Ici, en termes de contenu, nous parlons davantage de chatbot. Ça veut dire de l'intelligence artificielle générative. Générative, effectivement, comme vous le disiez dans votre discours, on est là pour non pas briller, mais pour éclairer. Et on est venu donc partager. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux formes d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle forte et une intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Je vais vous le dire simplement. Un algorithme n'est qu'une succession, une description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir des éléments fournis à l'entrée. Ça va vous paraître bizarre. Une recette de cuisine est un algorithme. Ça veut dire qu'on vous donne tout un tas d'éléments et quand vous allez le mettre ensemble, vous allez avoir la même sauce. Parce que dans les livres de recettes de cuisine, vous avez, comme le disait le prof Joly, la simulation du meilleur chef cuisinier qui fait les recettes comme la femme d'Obama qui en fait maintenant. Mais maintenant, quelle est la différence entre un algorithme et un programme ou logiciel et une intelligence artificielle ? L'algorithme, c'est, je l'ai dit, c'est l'intelligence artificielle faible. Il permet de recommander des livres à des clients sur base de choix déjà effectués par d'autres clients. Et vous allez vous rendre compte, et je découpe un peu mon discours, que une information qui est très demandée passe le plus souvent en occurrence dans les moteurs de recherche sans que l'algorithme ne vérifie si cette information est vraie. C'est justement cette guerre de la loi du nombre. Plus il y a du faux qui est versé, plus les moteurs de recherche, les relais et les algorithmes sont super entraînés, non pas sur le critère quantitatif, mais sur un coefficient d'occurrence qui vous remet le plus de ce qui est demandé. D'où ce que vous avez pu décrypter pour la guerre. En revanche, vous avez une intelligence artificielle qui est plus forte, qui en fait devient capable de décision. Lorsque par exemple vous êtes dans votre voiture et que vous faites marche arrière et que vous avez le signal sonore, mais vous continuez à reculer, la voiture s'arrête elle-même sans que vous le vouliez. Vous avez déjà de l'intelligence artificielle embarquée dans votre voiture sans pour autant le savoir. Et donc, de façon, professeur Joly, je suis très content que vous ayez évoqué cela, la seule invention qui remplace le cerveau humain, c'est l'ordinateur. Toutes les inventions du monde remplacent un membre du corps humain. Une voiture remplace les pieds, un avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est l'ordinateur. Mais l'intelligence artificielle, c'est déjà, oui, avec Al-Karzawi, qui a donné son nom, en fait, à l'algorithme. Mais c'est déjà 1940 avec Baran, 1950 avec Turing. Et c'est devenu une branche scientifique en 1956. Et c'est dans les années 90 qu'avec le CAN et les Cédric Villani, que c'est devenu un truc d'auto-apprentissage où on a maintenant des intelligences artificielles fortes qui peuvent être capables de décisions automatiques, contrairement à l'algorithme qui, lui, vous renvoie les occurrences de tout ce qui est recherche. Deux façons d'entraîner l'intelligence artificielle. Vous avez raison, professeur Njoli, parce qu'il y a des intelligences artificielles racistes, parce qu'elles sont alimentées en fonction des données qui existent. Vous avez aussi raison de dire que la justice est numérisée aujourd'hui pour les contraventions. On n'a même plus besoin en Europe d'aller plaider avec un avocat parce que ça coûte plus cher d'avoir un avocat. Une contravention de police, c'est avec l'intelligence artificielle ou des téléprocédures que vous les réglez. Alors, deux façons de faire de l'intelligence artificielle. Parce que vous avez dit, il faut de l'intelligence humaine. Il y a deux façons, soit la recherche. On prend un homme expert en la matière et on reproduit des stimuli d'information avec lesquels l'expert prend une décision, afin que la machine devienne elle seule capable de décider. C'est comme ça que vous avez vu aux échecs Gary Kasparov qui jouait contre les jeux d'échecs automatiques. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun humain qui peut gagner au jeu d'échecs contre une intelligence artificielle. Le Chinois était intelligent, il joue au Go. Les Américains, ils jouent au poker. Ce sont des poker menteurs. Les Russes, ils jouent aux échecs. C'est toute une culture, même du pouvoir chez eux. Et les Chinois jouent au Go, qui est un jeu où on doit arriver à vous bloquer et vous ne jouez plus. Alors, le gars qui joue au Go a compris que l'ordinateur devenait de plus en plus fort. Et il a abandonné. Parce que s'il continuait, en fait, il allait donner tous ses coups à l'intelligence artificielle et il ne le battrait plus. Donc, le champion du monde de Go chinois a perdu contre l'ordinateur parce qu'il a fait comme Kofi Olomide, le chante. Il a gardé ne fût-ce que 2% des 98 prises qu'il a données à l'intelligence artificielle. Alors, il y a l'autre méthode qui est l'apprentissage. En fait, on prend un logiciel qui peut être bête. Votre ordinateur, quand vous prenez des photos au début, c'est un contenu vide. Mais moi, je me suis retrouvé ici et mon téléphone m'a renvoyé une photo en me disant, il y a une année, vous étiez ici à cet endroit et vous aviez pris telle photo. Donc, l'apprentissage, c'est le logiciel qui essaye un certain nombre de décisions, les évalue et met en mémoire les résultats pour tenter d'aboutir à des décisions optimales, faisant de la machine un agent autonome. Maintenant, il y a une guerre des intelligences. Le prof Njoli, je dois le dire, parce que nous avons des figures tutélaires et quand une icône comme lui reconnaît un plus jeune, même si je suis doyen aujourd'hui, je dois vraiment lui rendre beaucoup de politesse. Qu'est-ce que l'IA fait aujourd'hui? Je vais vous dire. Il a été dit qu'en dehors les 120 prochaines années, les robots remplaceront totalement l'humain au travail. Regardez la grève à Hollywood. Les traducteurs, vous l'avez fait, Excellence Monsieur le Ministre, les traducteurs des dessins animés Pumba en toutes les langues, il faut les engager, vous les payez des cachets, alors que vous prenez une intelligence artificielle, il traduit tous les films. Et les traducteurs, les voix de Bruce Willis, les voix de John, je sais pas moi, les acteurs, ils ont fait grève à Hollywood. Non pas contre un humain, mais contre l'intelligence artificielle. En 2024, l'intelligence artificielle va surpasser les tâches de traduction linguistique de l'humain. Parce que vous êtes en guerre. J'enseigne au CHESD, j'enseigne à l'école de guerre, comme mon aîné le prof Njoli. Il y a aujourd'hui des kits embarqués avec les militaires qui peuvent tomber sur un ennemi parlant Kinyarwanda. Et cette intelligence artificielle dans l'interrogatoire fait la traduction automatique. C'est ce que les Français ont utilisé au Sahel et j'ai donné une conférence là-dessus. En 2027, une intelligence artificielle conduira mieux le camion qu'un humain. En 2031, la rédaction des dissertations se fera mieux par aucun humain que par l'intelligence artificielle. Et puis, en 2050, il n'y aura pas un seul emploi. Je vous le dis, pas un seul emploi qui ne sera pas complémentaire à l'intelligence artificielle. Donc, on aura cette inversion du cerveau machinal qui va dépasser le cerveau biologique. Même dans les consultations médicales, vous verrez qu'on entrera un certain nombre de paramètres. Même dans la justice, il vous donnera déjà un certain portrait robot de quelque chose et l'humain ne viendra que affiner les résultats. Alors, maintenant, il se fait avec tout ce qui est ChatGPT, avec tout ce qui est Siri, avec tout ce qui est plateforme qui produisent des données, il y a des outils qui vous permettent de connaître des textes produits par l'intelligence artificielle. Comme le disait le président du CESAC, c'est l'intelligence artificielle qui finalement arrêtera l'intelligence artificielle lorsque l'humain ne sera plus en mesure de faire le bouton. Donc j'ai partagé ici qu'il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qu'on peut acheter qui peuvent vous aider, vous le faites peut-être intuitivement, mais il y a des logiciels aujourd'hui qui, quand vous passez un test, moi j'ai les faits pour les étudiants, vous allez vous rendre compte que ce test est produit par l'intelligence artificielle. Alors, qu'en est-il de la désinformation? Je vous signale que la désinformation rapporte 235 milliards de dollars à la suite de la monétisation de la publicité sur ce type de site. Vous, vous valorisez l'information. Mais l'information aujourd'hui, avec le mécanisme de délinéarisation, est devenue simplement une donnée commerciale. Ça veut dire on a des pages, miroirs aux alouettes, plus on a de vues, plus la publicité passe, l'information devient secondaire. C'est la problématique qu'on a eue en France, où finalement c'est l'Élysée qui a dit aux plateformes que vous tuez l'information finalement. Veuillez nous aider à produire la bonne information pour que tout le monde francophone puisse quand même s'abreuver sur Jeune Afrique, sur ceci. Parce que si vous laissez ces plateformes avec les fakes qui montent comme pas possible, parce que ça rapporte plus d'ailleurs que l'information journalistique, vous allez tuer l'information. Alors, la désinformation. Je vais donner deux sémantiques. Je me chronomètre moi-même aussi ici. Ah, je suis à 12 minutes. Voilà, voilà. La désinformation. Pourquoi on a pris fake news et non false news? On a pris fake news pour parler de l'information truquée. Déjà dans le mot, il y a, comment on appelle ça, une malveillance. Parce qu'on aurait dû dire false news. Mais on dit fake news. C'est comme si l'industrie du numérique a assumé qu'il faut faire de la vraisemblance. Parce que il y a plusieurs éléments. Il y a la volonté du buzz, le zèle politique, l'actualité courtomiste, parce que l'actualité est devenue très périssable. On tournait à l'époque un seul numéro de presse écrite, je vois, monsieur, d'Africa News. Ça sortait à 5 heures du matin, mais aujourd'hui, on fait combien de productions? On a également la recherche du sensationnel, mais je saute ça. Il y a aussi la mésinformation. La mésinformation, ce n'est pas des gens qui, de manière malveillante, truquent l'information, mais de manière involontaire. Mais la mésinformation participe également à la désinformation. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? La personne indiquée par Steve Wimby et ensuite RFI, a-t-il été là ou pas? Mais il y a des mesures qui ont été prises. J'ai été dans les affaires de l'État pour savoir que quelqu'un, un ministre qui ne s'était pas battu à Bandal, un SMS est arrivé et le spécial l'a envoyé jusqu'au sommet. Et le monsieur regardait là où il était à Bandal qu'on l'ait révoqué sans qu'il se soit battu. Alors, c'est de la mésinformation qui peut donner des... Je crois que vous connaissez le ministre parce que je parle ici avec des personnes... Voilà. Voilà. Parce que, justement, ce bureaucrate avait trouvé que c'était plus facile d'envoyer les rapports en paperless. C'est-à-dire, quand vous avez un modèle de vieux Miranjoko qui est mort, il faisait les choses à la main en une seule copie. Et lorsqu'il remettait la copie, le chef destinataire de l'information lisait et il déchirait. Alors, on a eu quelqu'un qui a dit, moi, je vais innover avec les nouvelles technologies. Il envoie les informations à la vitesse. Mais on a eu à virer une personne. La souveraineté informationnelle. J'ai décrit seulement l'intelligence artificielle. J'ai décrit l'algorithme. J'ai décrit la désinformation et la mésinformation. Et j'ai donné le rôle des algorithmes. Maintenant, excusez-moi. TikTok est encore pire. Et moi, j'appuie, même si je suis pour la liberté, j'appuie que TikTok a été coupé. Pourquoi ? C'est l'une des plateformes éditorialisées. Elle a pour mission de faire de la parodie. Toutes les autres plateformes sont neutres. C'est nous qui venons avec l'information. Quand je suis chez Insta, c'est moi qui donne mes informations, j'entretiens mes followers et tout ça. Mais quand vous regardez TikTok, vous ne produisez pas l'information. C'est lui qui vous donne le fil des informations et j'ai expliqué et analysé l'algorithme de TikTok. J'ai fait un bon texte pour ça. Maintenant, je suis obligé d'arriver à la souveraineté informationnelle. Attendez, je regarde aussi mon chrono. Je suis à 15 minutes 46 secondes. Alors, la souveraineté informationnelle, parce que vous voyez, c'est la même logique avec le prof Njoli qui est un aîné de la Sorbonne. Et il a commencé par faire la phénoménologie et ensuite venir donner les solutions qui y vont. Si vous m'arrêtez, je ne pourrai pas. Alors, il a été dit la souveraineté informationnelle, mais on va s'étonner de se rendre compte que le mot souveraineté numérique existe dans l'ordonnance loi 23010 du 23 mars sur le code du numérique. Ça s'est défini comment ? Monsieur le ministre des médias, c'est intéressant. La souveraineté numérique s'est définie comme le droit d'autodétermination dont un pays dispose à décider de sa propre politique en matière du numérique sur ses infrastructures, sur ses données et leur traitement. C'est ce que le prof Njoli dit. Mettons de l'intelligence et construisons notre souveraineté informationnelle. Je réponds également à la préoccupation. Ce n'était pas une interrogation, mais une question. J'ai été pris expert dans plusieurs choses. D'ailleurs, là, j'ai encore été pris expert dans la neuroscience pour aller à l'UNESCO la semaine prochaine. En fait, ces GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils disent que tout le trafic et les profits générés en Afrique centrale ne vaut même pas 10% de ce qui est produit à Istanbul. Parce que nous avons quoi ? Des téléphones avec qui on regarde TikTok. Quelle est l'université ? Quelles sont les bibliothèques ? Quelles sont les administrations qui peuvent générer du contenu, du trafic ? On n'en a pas parce que l'intelligence artificielle s'alimente de données. Donc, on doit faire face dans cette guerre AFC M23 à la guerre de propagande, donc de l'information, à la guerre d'influence, donc de l'image, à la guerre psychologique et donc des capacités des hommes, à la guerre informatique et donc des cyberarmements, à la guerre économique et donc des ressources stratégiques, à la guerre de destruction. C'est important. Ils ont utilisé la télédétection. Le Rwanda, il a des capacités satellitaires. Et lorsque vous regardez le rapport d'Odd-Frank, les combats les plus importants, les points les plus chauds, c'est là où il y a la présence en forte teneur des minerais. Quand vous regardez leur chemin, ce n'est pas des objectifs de guerre, c'est des objectifs d'alimentation de leurs forces. Pourquoi ils ne montent pas ici ? Pourquoi ils traînent encore là ? Le rapport d'Odd-Frank l'a dit. C'est aussi la guerre de destruction des capacités de défense et donc de déstabilisation. Quels sont les risques ? Trois risques avant de donner les solutions. Est-ce que vous imaginez, je vais vous lire le sujet qui m'a été donné. Je le lis. Intelligence artificielle, désinformation algorithmique et cybersécurité. Protéger les journalistes et le public dans l'environnement numérique. Examiner les risques, c'est le sujet, ce n'est pas la tâche. Examiner les risques liés à la désinformation par l'IA et proposer des pistes pour renforcer la sécurité numérique et la souveraineté informationnelle. Voilà déjà le sujet qui est même plus long que mon exposé. Alors, nous avons analysé, Madame Moudia, moi je vous regarde, merci, merci, je vous regarde en suppliant que je partage. Alors, trois aspects, il y a des risques systémiques liés à la désinformation de l'IA, et voilà, à ce que le pays rencontre. J'ai parlé avec le président Sessak, je lui dis, il y a une astuce. Quand vous regardez les vidéos qui ont été fabriquées, regardez les clignements des yeux. Vous allez voir que c'est toujours en déphasage. Ils regardent, oui, oui, oui. Bon, ça, c'est scientifiquement prouvé. Voilà. Si vous voyez, alors, parce que vous allez voir quelqu'un qui parle, mais les yeux ne suivent pas. C'est une technique. Donc, les risques systémiques dans cette désinformation, il y a d'abord la position des grandes plateformes quant au contenu. Ils détiennent les tuyaux et tout passe par eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, vous avez l'importance de leur audience. Vous avez leur entreprise de facilitation du débat public. Est-ce que vous savez que ces plateformes ont des modérateurs et ils ont des fact-checkers? Au point où, il y a quelqu'un qui n'aime pas qu'on cite son nom, mais je vais citer l'autre, Facebook a exclu de Facebook deux personnes au Congo. Oh, je ne regarde pas le contenu. L'un s'appelle Stan Honora, il n'aime plus que je le cite. L'autre s'appelle du Sochois. Ils ont dit que le matin, ils géraient 64 comptes. Celui-ci dit telle information, lui-même répond. Et finalement, le trend, la tendance de l'information qu'on pensait nationale était influencée par deux personnes qui détenaient plus de 120 comptes. Vous voyez l'étude que vous avez faite. Eux, ils l'ont fait. Et Facebook a dit non, l'information n'est plus neutre, ça devient de la propagande. Et donc, il faut exclure ces deux personnes. Alors, maintenant, vous avez la diffusion des contenus illicites, les atteintes aux droits fondamentaux, la manipulation intentionnelle produisant notamment des effets sur la santé. Maintenant, la cybersécurité, c'est ça les solutions que nous donnons. J'ai vu une définition magnifique. Moi, j'ai toujours défini la cybersécurité qui est différente de la sécurité informatique. Écoutez, vous mettez un antivirus, c'est ça, et vous mettez des pare-feux, mais vous oubliez de mettre le code de protection des données. Donc, ça, c'est un problème humain. C'est pas un problème informatique. Donc, la cybersécurité, c'est la réponse multiforme et multi-acteur. Là, on a une guerre de l'information ainsi décrite, mais j'ai lu simplement l'article 5 de la loi organique numéro 11-012 de 2011 sur les forces armées. Voilà comment ils définissent la défense civile comme la cybersécurité. Ensemble des moyens non militaires ayant pour objet d'assurer la survie des populations, de sauvegarder les capacités de production, d'organiser la résistance en cas d'occupation et d'apporter un soutien aux forces armées. Mais bon sang, c'est ce que vous faites, monsieur le ministre et monsieur le président du CESAC. Vous faites de la défense civile que nous appelons techniquement la cybersécurité. Maintenant, quelles sont les propositions? J'ai vu que vous avez utilisé un terme de manière intuitive, mais ça existe. La gouvernementabilité algorithmique. Les Chinois ont réussi. Non, ce n'est pas ingouvernable. Les Chinois ont réussi à donner une notation sociale. Ils ont tellement de caméras, tellement de données, qu'ils savent tracer leur population et savoir détecter les menaces avec les mécanismes d'alerte. Toutes les solutions, les propositions sont là, mais voilà. Peut-être dans les débats, on va revenir parce qu'on avait vraiment bien préparé. Il y a aussi la cybersurveillance, la gouvernance des données. Je vais vous dire une chose. Yango qui est venu ici, je ne fais pas de la mauvaise publicité, elle est russe. Yango, elle est russe. Mais les gens qui travaillent sur Yango ont même des primes qu'on leur donne qui ne correspondent pas souvent aux gains réalisés. Mais ils font quoi? Ils font le repérage. Parce que les Américains ont le GPS qui a cartographié le monde entier. Les Russes ne veulent pas être, comment on dit, dépendants. Les Européens ont essayé Galiléo, ça n'a pas marché. Et donc, ils doivent affiner, en entrant dans les petites rues et tout ça, tous les itinéraires pour faire leur propre cartographie. On n'a pas voulu d'eux ici à Brazzaville. Ça, je dis la vérité. Donc, les États-Unis, le Kenya, l'Indonésie, la France, toutes les stratégies sont là. Ce qu'ils ont fait pour la lutte contre la désinformation, l'Italie, Royaume-Uni, Kenya, Indonésie et la République démocratique du Congo. J'ai fait l'inventaire de tout ce qui était infraction de contenu à la fois dans les délits de presse, qui bon, malheureusement existent encore, et dans ce qui est également le code du numérique. Peut-être dans les débats, nous y reviendrons. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci professeur. On a quelques minutes pour manger dans nos avis. Il faudrait faire il faut l'intelligence
artificielle
fait partie des enjeux de notre mode de vie.
Et même dans l'état où il est.
La façon de lutter contre l'intelligence artificielle, il faut être doté de l'outil adéquat et menacé de la
sécurité. Oui, attendez, vous me l'avez.